Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des acteurs. L'UFC Que choisir de l'un vous informe. Chers auditeurs de Radio B, bonjour. Alors ce mois-ci, la chronique de l'UFC Que choisir va vous parler des nouvelles armes du marketing des industriels des alcools. Ou plutôt, comment l'industrie des spiritueux contourne les interdictions pour séduire les jeunes. Cocktail coloré en canette, vodka aromatisé aux bonbons, rhum arrangé aux fruits exotiques, prémix sucré qui ne ressemble plus à de l'alcool, bienvenue dans le nouveau visage de l'industrie des spiritueux. Un visage jeune, festif, innovant et surtout un visage qui contourne habilement les interdictions publicitaires pour s'installer au cœur de la vie nocturne et festive des 18-25 ans. Car pendant que les ventes du vin et des alcools traditionnels stagnent ou déclinent, un nouveau marché explose, celui des spiritueux nouvelle génération. Des produits pensés, designés et commercialisés pour une cible précise, les jeunes consommateurs. Alors, comment font-ils ? Comment ces marques théoriquement interdites de publicité depuis la loi Evin de 1991 font-elles ? Eh bien, petite enquête sur les stratégies d'un marketing agressif qui ne dit pas son nom. Alors d'abord, il faut bien comprendre la mutation du marché de l'alcool en France. La consommation de vin recule, environ 2% par an. Depuis une décennie, le pastis, le whisky, les apéritifs classiques, c'est en perte de vitesse, surtout auprès des nouvelles générations. Alors dans le même temps, d'autres segments explosent. Les spiritueux prémixés ont progressé de plus de 15% entre 2019 et 2023. Les hard seltzer, ça s'appelle comme ça, ces boissons alcoolisées pétillantes et légères, quasi inexistantes il y a 5 ans, représentent aujourd'hui un marché de plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, les gin toniques en canette, les vodkas aux saveurs de bubblegum ou de bonbons Haribo, les shots prêts à consommer, tous ces produits trouvent leur public, les 18-25 ans, 30 ans. L'industrie l'a bien compris. Pour survivre, elle doit se réinventer. Et pour se réinventer, elle doit conquérir les jeunes. Car un consommateur fidélisé à 20 ans, c'est 40 ans de chiffre d'affaires. Alors la première stratégie, c'est de transformer radicalement le produit lui-même. Objectif, faire oublier qu'il s'agit d'alcool. Les équipes marketing l'ont bien compris, les jeunes consommateurs sont souvent rebutés par le goût fort de l'alcool. Alors, on sucre, on aromatise, on colore, on crée des passerelles gustatives vers l'alcool. Prenez les vodkas aromatisés. Il y a 10 ans, on avait citron. Aujourd'hui, on trouve des vodkas au goût de marshmallow, de barbe à papa, de cola, de fruits rouges acidulés, des goûts qui rappellent l'enfance, les bonbons, les sodas. Alors les prémix vont encore plus loin. Ces cocktails préparés en canette ou en bouteille, Mojito, Sex on the Beach, Piña Colada, affichent des packagings qui ressemblent à s'y méprendre à des sodas ou des boissons énergisantes. Ces canettes métallisées aux couleurs fluo, graphisme urbain, slogan percutant, rien n'indique vraiment la présence d'alcool au premier regard. Et puis, il y a les hard seltzer, la dernière révolution. De l'eau pétillante, des arômes naturels, moins de 100 calories, mais 4 à 5% d'alcool. Le discours marketing est rodé, c'est léger, c'est rafraîchissant, c'est presque bon pour la santé. Certaines marques n'hésitent pas à jouer sur des codes, sur ces codes avec des packagings minimalistes évoquant les produits bio, ou même les eaux premium aromatisées. Alors l'innovation ne s'arrête pas là. Il y a même ce qu'on appelle les shots individuels prêts à l'emploi. Les alcools en poudre, prêts à diluer, les gelées alcoolisées, tout est fait pour faciliter la consommation, la rendre ludique, presque anodine. Mais alors, comment vendre ces produits quand la publicité pour l'alcool est strictement encadrée en France ? C'est là que le marketing devient créatif. Officiellement, la loi Evin interdit toute publicité en dehors de supports très restreints. Donc, excite la télévision, les panneaux publicitaires grand public et, en théorie, les réseaux sociaux. Mais l'industrie contourne. Comment ? le marketing d'influence. Les marques ne font pas de publicité, elles collaborent avec des influenceurs. Un DJ posté avec une canette de vodka cola lors d'un festival, ce n'est pas de la pub, c'est du brand content. Un YouTuber qui organise une soirée sponsorisée par une marque de jeans, ah, c'est du partenariat événementiel. Alors les stories Instagram montrant des cocktails colorés avec des bouteilles bien visibles, ah bah ça c'est du lifestyle, c'est de l'entertainment, donc rien à voir avec de la publicité. Alors, les marques créent aussi leur propre contenu, donc des chaînes YouTube de recettes, de cocktails, des comptes Instagram inspirationnels sur l'art de vivre, podcasts sur la culture des spiritueux, tout ça sans jamais dire acheter notre produit, mais en créant un univers de marque auquel les jeunes veulent appartenir. Ensuite, les marques font de l'investissement massif dans les lieux de fête. Les bars, les clubs, les festivals de musique sont devenus les nouveaux terrains de conquête. Pas de publicité, qu'importe. Les marques offrent du mobilier aux établissements, des tables, des chaises, des néons lumineux avec leur logo. Elles forment les barmans à préparer des cocktails avec leurs produits. Elles organisent des brand activations, ces opérations où des hôtesses distribuent des échantillons à l'entrée des boîtes de nuit ou lors d'événements étudiants. Dans certains festivals, on trouve même des brand villages entiers où les marques d'alcool créent des espaces immersifs, photomatons, jeux, DJ, cadeaux, tout pour associer la marque à un moment festif et mémorable. Alors les réseaux sociaux, ça mérite un chapitre à part, car ils sont devenus centraux dans cette stratégie de contournement. Théoriquement, publicité pour l'alcool, interdite. Mais dans les faits, les marques sont omniprésentes. On repart sur un compte Instagram d'une marque de rhum qui ne fait pas de publicité. Elle partage une passion pour la mixologie. Elle publie des belles photos de cocktails, des recettes, des ambiances festives. Les produits sont là, visibles, mais présentés dans un contexte éditorial ou artistique. Alors, il y a aussi les hashtags communautaires. Hashtag Mojito Time, hashtag Gin Lovers, hashtag Cocktail Artist. Bah oui. Elles encouragent les utilisateurs à poster leurs propres photos avec ces tags. Résultat, des milliers de posts organiques qui font la promotion indirecte des marques, créées par les consommateurs eux-mêmes. Alors, TikTok, c'est devenu le nouveau terrain de jeu avec les défis viraux autour de cocktails. Donc les vidéos de bartenders professionnels créent des mélanges spectaculaires. Les trends festifs, les marques n'ont même plus besoin de créer du contenu. Elles laissent les utilisateurs le faire pour elles. Et quand les plateformes tentent de réguler, l'industrie s'adapte. Et de toute façon, les algorithmes font le boulot. Elles recommandent des contenus à des profils jeunes qui montrent de l'intérêt pour la fête, la musique et les sorties nocturnes. Et le plus sophistiqué, ça reste la stratégie d'expérience de marque. L'industrie des spiritueux a compris que pour toucher les jeunes, il ne suffit pas de vendre un produit. Il faut vendre un style de vie, une appartenance, une expérience. Alors si on prend les pop-up bars éphémères, donc qui fleurissent dans les grandes villes, pendant quelques semaines, une marque de vodka ou de gin s'installe dans un lieu branché et crée un univers complet. Alors, déco instagrammable, DJ, cocktail, signature gratuite à prix réduit. L'objectif, créer du buzz, faire venir des influenceurs locaux et générer du contenu sur les réseaux sociaux. Alors, les marques organisent aussi des masterclass de mixologie, gratuites, dans des bars partenaires, des soirées thématiques, des dégustations, des événements sur invitation seulement, qui créent un sentiment d'exclusivité. Les jeunes ne consomment pas seulement un produit, ils entrent dans un club, une communauté. Certaines marques vont même jusqu'à créer des applications mobiles avec des programmes de fidélité, donc des jeux, avec des avantages dans les bars partenaires. Vous scannez un QR code sur une bouteille, vous gagnez des points, vous débloquez des récompenses. Donc c'est la gamification au service de la consommation d'alcool. Alors tout ça, c'est pas sans conséquence, parce que la stratégie et contribue à normaliser la consommation d'alcool chez les jeunes. Quand l'alcool ressemble à un soda, quand il est associé systématiquement à des moments festifs et positifs, quand il est présenté comme un élément naturel de la socialisation, eh bien, la vigilance baisse et on banalise. Les chiffres sont là. L'âge de la première consommation d'alcool baisse. Selon Santé publique France, 44% des jeunes de moins de 17 ans, ou 17 ans environ, déclare avoir été ivre au moins une fois dans l'année. Et ça, c'est ce qu'il déclare. Les épisodes de binge drinking, la consommation excessive rapide, progressent particulièrement chez les 18-24 ans. Alors, avec ces nouveaux produits et leur facilité de consommation et leur goût sucré masquant l'alcool, bah, ça favorise ce type de comportement. On boit plus vite, on boit plus facilement, et une canette de prémix se vide comme un soda. Il y a donc la question de l'addiction qui intervient. Si l'industrie du tabac a longtemps été accusée de créer délibérément de la dépendance, qu'en est-il de l'alcool ? Les alcools sucrés et aromatisés créent une accoutumance au goût, qui facilite la transition vers des alcools plus forts. Donc ces stratégies de fidélisation par l'expérience créent un attachement émotionnel à la marque qui va au-delà du simple produit. Et surtout, des études montrent que plus on consomme tôt de l'alcool, plus le risque de développer une dépendance à l'âge adulte est élevé. En ciblant les 18-25 ans avec autant d'agressivité marketing, l'industrie joue donc un jeu très dangereux avec la santé publique. Alors, face à ces stratégies, la régulation elle semble toujours avoir un train de retard. La loi Evin, c'est 1991. L'Internet en 1991 n'existait pas. Donc, elle a été pensée pour un monde pré-Internet, pré-réseaux sociaux, pré-marketing d'influence. Donc, les textes parlent de publicité au sens classique. Mais tout ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas du tout inclus dans la loi. Alors, que faire face à cette situation ? Bah, d'abord, moderniser le cadre légal. Adapter la loi Evin au XXIe siècle. Ensuite, renforcer l'éducation et la prévention. Le problème n'est pas l'existence de l'alcool en soi, mais bien cette stratégie industrielle massive qui vise délibérément à rendre les jeunes dépendants à un produit nocif pour leur santé. Et ce, en contournant systématiquement des règles démocratiquement établies. Bah, les chiffres sont sans appel. L'alcool reste la deuxième cause de mortalité évitable en France, responsable de 41 000 décès par an. Derrière ces statistiques, il y a des vies brisées, des familles détruites et des santé ruinées. Donc face à une industrie qui investit des milliards dans le marketing, qui emploie les meilleurs créatifs, qui utilise les technologies les plus sophistiquées pour séduire et fidéliser les jeunes, on ne peut pas rester passif. Derrière chaque canette colorée, chaque cocktail en poudre, chaque post Instagram esthétique, il y a une réalité. L'alcool est festif, certes, mais il est dangereux pour la santé. Et aucune stratégie marketing, aussi créative soit-elle, ne devrait pouvoir faire oublier cette vérité. Voilà, c'était le poste du mois. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique. À bientôt. Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des acteurs. L'UFC Que Choisir de l'un vous informe.